Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir. Il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 30 janvier 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au Mali, les djihadistes ont repris temporairement le contrôle du camp de Sokolo qu'ils avaient attaqué dimanche. 3 soldats tchadiens et 1 civile ont été tués cette nuit dans une attaque sur l'île de Choua, dans le lac Tchad. Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est alourdi à 170 morts en Chine. L'OMS tient une réunion d'urgence. Procès en destitution, le Sénat américain interroge une dernière fois l'équipe de défense du président Donald Trump. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Mali, après l'attaque contre l'armée dimanche à Sokolo, les djihadistes sont revenus la nuit dernière et ont planté leur drapeau au camp de gendarmerie. Ils se sont retirés mais sont toujours aux alentours de la ville. Les FAMA se sont repliés sur Diabali avant leur arrivée. Kassim Traoré nous en dit plus.
Les djihadistes sont de retour à Sokolo et ils ont installé leur drapeau dans les camps de la gendarmerie. Une menace plane sur la ville. Nous avons alerté les autorités, mais jusqu'à présent, aucune réaction n'est venue d'elles, nous dit Ahmed Dramé, président de la jeunesse de Sokolo. Le maire de Sokolo, de son côté, pense qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Parce que les gendarmes qui sont venus après l'attaque, ceux qui étaient là, sont tous partis. Nous sommes livrés aux terroristes, dit le maire très en colère. Dans la même nuit, aux environs de 3 heures du matin, plusieurs radicaux lourdement armés sont venus vers Nyono et Massina pour attaquer le poste militaire de Pointa. Pointa est l'un des importants verrous sur l'axe Markala-Nyono. Un renfort de FAMA a été dépêché sur place et après un moment d'échange de tirs, les assaillants se sont repliés vers Mounipebougou. Cette fréquence de déstabilisation des positions des militaires est une situation qui inquiète bon nombre de personnes dans la région de Ségou, mais aussi dans le cercle de Diré et Gou, où se trouve actuellement le premier ministre. Des forains ont échappé ce matin à un enlèvement alors qu'une mine a été déjouée de justesse avant le passage du cortège du premier ministre. Tombouctou, Kassim Traoré pour VOA Afrique.
Lors d'une conférence de presse au Pentagone, le secrétaire à la Défense Mark Esper a déclaré que les États-Unis ne retireront pas totalement leurs forces du continent africain. Le Pentagone examine toutes les positions de ses troupes à la lumière d'un nouvel accent sur les défis de grande puissance et moins sur la lutte antiterroriste. Le gouvernement tchèque envisage d'envoyer 60 soldats au Mali, au Niger et au Tchad sur l'accord du Parlement. Ils obtiendront un mandat pour rejoindre l'opération Barkhane jusqu'au 31 décembre 2022, a indiqué le ministre de la Défense, Lubomir Metnar. Les Tchèques prévoient de commencer à déployer leurs militaires en milieu d'année. L'opération anti-djihadiste Barkhane est en cours d'extension, laissant la place à la force d'intervention européenne Takuba. Les forces de sécurité de Guinée font face à l'indignation après la diffusion d'une vidéo paraissant les montrer se servant d'une femme comme bouclier lors des troubles. Le policier principal protagoniste de la scène a été arrêté et le ministère de la Sécurité a présenté ses excuses à toute personne ayant eu à subir une de ces outrances. La vidéo situant la scène mercredi à Ouanidara montre 4 policiers casqués faisant face à des jeunes lanceurs de pierres dont des enfants. L'un des policiers avance au devant des émeutiers en poussant et tirant une femme devant lui. En fin de vidéo, il la traîne au sol en fuyant avec les autres. 3 soldats tchadiens et 1 civile ont été tués la nuit dernière dans une attaque attribuée aux djihadistes sur l'île de Choua dans le lac Tchad. Le point avec Eki Abadou.
Les éléments de Boko Haram ont attaqué notre position la nuit dernière sur l'île de Choua. Nous avons neutralisé 21 éléments de Boko Haram, a déclaré le général Taher Erda, chef d'état-major des armées. Ces forces ratissent la zone à la recherche des éléments de Boko Haram qui ont réussi à fuir, a-t-il précisé. Depuis plusieurs mois, les attaques djihadistes se sont intensifiées autour du lac Tchad, une vaste étendue entre le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. La recrudescence des attaques ces derniers mois a provoqué une dégradation de la situation humanitaire, augmentant considérablement le nombre de déplacés. Début janvier, l'ensemble des 1200 Tchadiens de la force conjointe déployée depuis des mois au Nigeria sont rentrés au Tchad pour être déployés autour du lac Tchad du fait de la multiplication des attaques.
Par ailleurs, l'armée tchadienne a un nouveau chef. Il s'agit du général Abakar Abdelkrim Adam. Il remplace le général des corps d'armée Taher Erda. La raison du limogeage de ce dernier n'est pas connue. Le porte-avions français Charles de Gaulle a repéré mercredi au large des côtes libyennes une frégate turque escortant un cargo acheminant des véhicules blindés de transport de troupes à destination de Tripoli. Selon des sources militaires françaises, le cargo Bana, battant pavillon libanais, a fait escale hier dans le port de Tripoli. Selon le site Marine Traffic, ce navire croisait ce jeudi après-midi au large de la Sicile. Aujourd'hui même, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, a dénoncé devant le Conseil de sécurité les violations des accords de Berlin par la communauté internationale pour arrêter les ingérences et les livraisons d'armes aux belligérants.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé se réunit à nouveau aujourd'hui afin de déterminer si le coronavirus apparu en Chine constitue une urgence internationale. Le bilan de cette épidémie s'est alourdi à 170 morts en Chine après un bond sans précédent du nombre quotidien de décès. Jacques Aristide nous en dit plus.
La nouvelle réunion de l'OMS intervient alors que le nombre de patients contaminés a grimpé à près de 8000 en Chine, ce qui dépasse désormais largement celui de personnes infectées par le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, en 2002-2003. Une quinzaine de pays sont également touchés. Les Émirats arabes unis ont fait état du premier cas avéré au Moyen-Orient. Signal inquiétant, des transmissions interhumaines ont été enregistrées en Allemagne, au Japon et au Vietnam. La métropole de Wuhan, d'où est partie cette épidémie de pneumonie virale, est coupée du monde depuis une semaine, comme la quasi-totalité de la province environnante du Hubei. Les États-Unis et le Japon ont évacué une partie de leurs ressortissants. Un deuxième avion américain est attendu dans les prochains jours. D'autres pays étrangers préparent également des rapatriements. Quant à la Russie, elle va fermer sa frontière avec la Chine demain. Pour sa part, le Fonds monétaire international indique que l'impact sur l'économie mondiale dépendra de la durée de l'épidémie.
Le New York Times cite des écrits attribués à l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, affirmant que le président Donald Trump souhaitait geler une aide à l'Ukraine pour que Kiev enquête sur Joe Biden. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les démocrates réclament que John Bolton et d'autres responsables de l'administration Trump viennent témoigner à ce procès historique, attribuant des écrits à un livre non publié de l'ancien conseiller à la sécurité nationale. Le quotidien de New York avance que Donald Trump a confié à M. Bolton son refus de verser 391 millions de dollars d'aide à l'Ukraine pour que Kiev ouvre une enquête sur Joe Biden et son fils Hunter. Depuis cette fuite, les questions des sénateurs se sont transformées en débat sur la présence de témoins. Patrick Philbin, avocat de la Maison-Blanche, estime qu'appeler des témoins pourrait faire traîner ce procès pendant des mois. Une employée du Conseil national de sécurité a écrit une lettre à l'avocat de Bolton, lui expliquant que son livre ne peut pas être publié dans sa forme actuelle, car contenant des informations classifiées. Un vote sur l'audition des témoins peut intervenir avant la fin de la semaine. Il sera suivi d'un autre vote sur l'acquittement ou la destitution du président, ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire des États-Unis.
À la veille de la sortie des Britanniques de l'Union européenne, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a vanté à Londres les bénéfices d'un rapprochement post-Brexit. « Nous voulons faire passer le Royaume-Uni en tête de liste », a assuré le secrétaire d'État lors d'une rencontre avec son homologue britannique Dominic Raab, avant d'être reçu dans la journée par le Premier ministre Boris Johnson. Le compte à rebours a commencé avant la séparation historique qui sera marquée vendredi à 23h GMT après 3 ans et demi de crise provoquée par le référendum de 2016. Les formations politiques irakiennes mènent des discussions pour trouver un successeur au Premier ministre démissionnaire Adel Abdelmadi. Le président Barham Saleh a donné au Parlement jusqu'au 1er février pour désigner un nouveau chef de gouvernement et a prévenu que, passé ce délai, il assignerait à ce poste la personne qu'il jugera la plus acceptable pour son pays, confronté à un mouvement de contestation. Vous écoutez bien Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, l'actualité économique présentée par Nanit Talani. C'est la Minute Éco.
Le Zimbabwe et l'Union européenne ont lancé le projet d'appui à un accord de partenariat économique de 10 millions d'euros qui devrait dynamiser le programme de réforme économique du pays et les activités des petites et moyennes entreprises. Le projet ZEPA veut renforcer l'intégration régionale et internationale du Zimbabwe grâce à la réduction des coûts de dédouanement des marchandises et à l'amélioration de la compétitivité et de la capacité d'exportation des PME. Celle-ci emploie environ 90% de la main-d'œuvre et contribue à plus de 60% au PIB. La société de télécommunications MTN investira 1,6 milliard de dollars sur 3 ans dans son réseau et ses opérations au Nigeria, son plus grand marché, après avoir résolu une affaire juridique majeure avec le gouvernement. Plus tôt ce mois-ci, le procureur général du Nigeria a déclaré qu'il avait retiré une demande fiscale de 2 milliards de dollars contre MTN, mettant fin au dernier désaccord de la société avec les autorités nigérianes. Terminons par la croissance économique de l'Afrique qui devrait atteindre environ 4% cette année grâce aux investissements dans les infrastructures et les exportations de ressources naturelles, a annoncé ce jeudi la Banque africaine de développement. L'année dernière, la croissance était inférieure au taux moyen de 5% de la dernière décennie en raison du ralentissement de la croissance dans les 5 grandes économies du continent, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
L'île Maurice se retire de la CAN de futsal.
Oui, l'île Maurice a été invitée par son gouvernement à se retirer du tournoi, une décision surprise alors que l'équipe a déjà entamé la compétition. Elle devait jouer son second match de ce groupe ce jeudi face à la Libye. L'île Maurice avait remplacé l'Afrique du Sud démissionnaire pour des raisons politiques liées au lieu d'organisation de la CAN futsal qui se déroule à Laayoune, dans le Sahara occidental, un territoire sur lequel l'autorité du Maroc n'est pas reconnue par la communauté internationale. Pour l'heure, Amir Soba, président de la Fédération mauricienne de football, fait de la résistance.
Issouf Sissoko s'est engagé avec les Girondins de Bordeaux.
Le Malien de 18 ans qui est prêté pour 18 mois avec option d'achat va rejoindre l'équipe réserve qui joue en National 3. Le milieu de terrain axial formé au CFC Daoula à Bamako rejoint l'effectif de Manu Diouf Sili. En National 3, Issouf Sissoko fait partie de la sélection internationale des moins de 20 ans du Mali et a notamment participé aux Jeux africains 2019. De son côté, le Ghanéen de 18 ans, Isaac Nouhou, a paraffé un contrat de 2 ans et demi avec le club belge de Casse en Jupiter Pro League. Il a été formé à l'Aspire Academy au Sénégal. Par contre, rien n'est encore clair pour Victor Wanyama. D'après le magazine France Football, le Kenyan de 28 ans a été proposé à Rennes. Victor Wanyama devait quitter Tottenham l'été dernier, mais n'est finalement pas parti. Il était convoité par le Cercle Bruges et avait aussi été proposé à Marseille.
Eden Hazard revient à l'entraînement.
Oui, l'attaquant belge de 29 ans a participé à son premier entraînement avec le Real Madrid 2 mois après sa blessure à la cheville droite. Recrue star des Merengues lors du dernier mercato d'été, Eden Hazard s'est blessé en novembre dernier lors d'un contact avec son compatriote Thomas Meunier contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Une simple contusion avait d'abord été détectée chez le joueur qui devait être indisponible 10 jours, mais la microfracture détectée début décembre au même endroit a prolongé son absence. Malgré l'avancement de son rétablissement, il paraît peu probable que le Belge soit totalement remis pour le derby de Madrid contre l'Atlético samedi à Santiago Bernabéu pour la 22e journée de Liga.
Le Brésilien Lucio raccroche à 41 ans.
Oui, le défenseur brésilien champion du monde en 2002 avec la Seleção a annoncé qu'il prend sa retraite à 41 ans après avoir disputé 2 saisons en 4e division avec la Brésilienne C. Né en 1978, Lucimar da Silva Ferreira, plus connu sous le nom de Lucio, a débuté sa carrière dans le club de sa ville natale, Planaltina, avant de taper dans l'œil de l'international Porto Alegre, qu'il a recruté en 1997. Il est ensuite allé au Bayern Leverkusen en 2001, puis le Bayern Munich, avec qui il a été sacré triple champion de la Bundesliga en 2005, 2006 et 2008. Mais c'est finalement en Italie que le Brésilien a connu sa saison la plus faste en club, avec le fabuleux triplé avec l'Inter Milan remportant la Serie A, la Coupe d'Italie et la Ligue des Champions. Avec son équipe nationale, Lucio était titulaire lors du 5e et dernier titre mondial de la Seleção au Japon et en Corée.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition, on passe au dossier du jour. Au Mali, après l'attaque du camp de la gendarmerie de Sokolo dimanche, qui avait fait une vingtaine de morts et une dizaine de blessés parmi les soldats, les djihadistes sont revenus la nuit dernière brûler ce camp et avaient même planté leur drapeau sur les lieux. Modibo Dembélé a joint Malik Konaté, journaliste à Bamako.
À l'heure actuelle, l'armée malienne qui a été attaquée le dimanche très tôt le matin par les djihadistes à 15 km actuellement du village de Sokolo. Hier soir, les djihadistes se sont retournés encore dans ce village-là pour prendre le cas en otage encore. Ils ont brûlé tout ce qui restait comme outil de travail ou de nos femmes. Ils ont dormi dans le camp et très tôt le matin, ils sont repartis encore, ils sont réfugiés et l'armée a envoyé des hélicos pour surveiller le village. Mais selon le maire de la localité que nous avons rejoint par téléphone, nous avons savoir qu'ils ont alerté les autorités compétentes depuis le samedi pour leur dire que les djihadistes sont aux alentours du village et ils veulent attaquer la position de nos femmes. Mais il n'y a eu aucune réaction de la part des autorités.
Lorsque les djihadistes sont retournés, est-ce qu'ils se sont attaqués à la population?
Et le président de la jeunesse de la localité nous a fait savoir que les djihadistes ne se sont pas attaqués aux habitants de ce village. Ils sont juste venus occuper le camp, installer leurs drapeaux et brûler le reste des matériels qui restaient dans ce camp.
Savez-vous pourquoi l'armée n'est pas intervenue pendant que les djihadistes passaient la nuit à Sokolo après leur attaque?
Selon les informations que nous avons récoltées, après la visite du gouverneur et le directeur général de la gendarmerie, les militaires qui étaient à Sokolo ont fait savoir à nos autorités qu'ils ne peuvent pas rester sans les moyens conséquents. Ils ont demandé à nos autorités de leur donner les moyens pour qu'ils puissent rester au village, sans quoi ils ne vont pas rester. Donc nos femmes se sont repliées pour venir à 15 km du village de Diabali.
C'était le journaliste malien Malik Konaté. Modibo Dembélé a également joint le maire de Sokolo, Draman Simbara.
Le dernier développement sur le terrain, c'est que après l'événement du lundi, les militaires qui étaient en poste à Sokolo et les renforts qui étaient venus pour les secourir ont quitté leur poste. Donc le village était riche sans aucun porteur d'uniforme. Hier, mercredi, les 18h30, les djihadistes sont revenus. Ils sont retournés au camp pour aller détruire le peu qui restait. Donc ils ont fait leur forfait, ils sont arrêtés dans la mine, puis ils sont repartis depuis le matin.
Pendant ce temps-là, où était l'armée malienne?
L'armée malienne qui était sur place à Sokolo se sont repliés sur le Diabali. Donc pour l'instant, il n'y a pas une seule force de l'armée malienne.
Savez-vous pourquoi l'armée n'est pas intervenue pendant que les djihadistes passaient la nuit à Sokolo?
On n'a pas du tout compris le fait que l'armée s'est retirée du village. On n'a pas d'explication à ça et on n'a pas du tout compris. Ils n'étaient pas là qu'ils sont revenus.
Est-ce que vous avez pu avoir une réaction de la part des autorités régionales ou bien nationales, comme par exemple le gouverneur?
L'information a été partagée et au niveau administratif et au niveau militaire. On a donné l'information à tous les niveaux. Mais jusqu'à la date, au moment où je vous parle, il n'y a pas de réaction.
Lorsque les djihadistes sont revenus, est-ce qu'ils se sont attaqués aux populations civiles?
Non, heureusement, ils n'ont pas touché la population civile. Encore, ils sont venus même en ville, à côté de la résidence du sous-préfet. Ils étaient aussi au niveau de la mairie civile et n'ont pas fait de dégâts à l'intérieur du village.
Quel est le sentiment général qui prévaut à Sokolo actuellement face à cette situation?
Voilà, à Sokolo, que ce soit à mon niveau ou au niveau de toute la population, c'est la déception, la colère et l'amertume. Parce qu'on se sent abandonné par les détruits. On n'a pas une mission de défense.
Draman Simbara, maire de Sokolo, dans le centre du Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Le président du Bénin, Patrice Talon, a achevé hier une visite de travail entamée lundi ici à Washington. Il y a eu des rencontres notamment avec des responsables du FMI, de la Banque mondiale et du gouvernement américain, dont le secrétaire d'État Mike Pompeo. La lutte contre le terrorisme était l'une des questions des échanges avec le chef de la diplomatie américaine. Monsieur Talon a déclaré à VOA Afrique que la frontière du Bénin avec le Nigeria sera bientôt opérationnelle. C'était au micro d'Irénée Herman Ongbo.
Il y a eu beaucoup de travaux, de son travail, d'entretien avec notre grand voisin pour remédier rapidement à cette situation. Théoriquement, dans les semaines à venir, ça devrait se faire selon les engagements de nos voisins, puisque nous avons pris des mesures. Les deux administrations, douanières, la police de ces deux pays, pour entreprendre des missions, des patrouilles, une coopération qui devrait satisfaire les exigences de nos voisins qui estiment que les frontières sont trop poreuses et que des produits qui sont prohibés au Nigeria viennent facilement des pays frontaliers, ce qui justifie l'essentiel de leurs mesures de fermeture de frontières. Dans les prochaines semaines ou prochains jours, cette situation devrait se normaliser.
Est-ce que lors des tractations, vous notez tout au moins une bonne foi du côté nigérian?
Si, on observe une bonne disposition d'esprit. Je pense que ça va tout rentrer dans l'ordre bientôt.
Monsieur le Président, parlons justement du Nigeria. Récemment, Abuja a remis en cause la monnaie unique, ECO, telle qu'annoncée par le président Alassane Ouattara. Quelle est la position exacte du Bénin sur cette monnaie?
Le Nigeria, les pays de la CEDEAO qui ne sont pas membres de l'UMOA n'ont pas remis en cause la monnaie unique. Ils ont fait état du fait que ECO sera la monnaie unique de toute la CEDEAO et non d'une partie de la CEDEAO que sont les pays de l'UMOA. Il y a à clarifier un élément de langage. Le nom ECO ne sera vraiment adopté que quand d'autres pays de la CEDEAO vont intégrer cette monnaie unique. Ils ont raison. Nous voulons aller vite pour que l'écho soit une réalité et nous avons déjà dès maintenant annoncé cela. Mais il faut noter une chose, l'intégration monétaire, la naissance de l'écho pour l'ensemble des pays de la CEDEAO est un objectif noble. Nous y tenons, nous voulons y aller vite, mais l'impératif du jour c'est la stabilité monétaire. La volonté d'aller à l'écho et même vite ne remet pas en cause du tout l'impératif de la stabilité monétaire ainsi que le respect par tous des critères de convergence.
C'était le président béninois Patrice Talon.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est alourdi à 170 morts en Chine. La France s'apprête, dans le sillage des Américains et des Japonais, à évacuer ses ressortissants de Wuhan, ville coupée du monde depuis une semaine. L'Organisation mondiale de la santé s'est réunie ce jeudi pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Éric Manirakiza a joint à Brazzaville le responsable des opérations d'urgence pour l'OMS en Afrique, Ndakonan Michel Yao.
Les symptômes peuvent aller du simple rhume à une forte détresse respiratoire, c'est-à-dire l'incapacité de respirer normalement, avec des symptômes de la grippe ordinaire que sont notamment la fièvre et autres. Donc c'est un peu les symptômes d'un rhume ou bien d'une grippe normale. C'est seulement la cause de ce nouveau virus, qui est tout nouveau, c'est un virus qui provient de l'animal et qui transmet à l'homme et qui par la suite on a une transmission d'homme à homme et c'est vraiment la préoccupation actuelle.
Et comment se prévenir?
Pour se prévenir, d'abord, c'est des mesures d'hygiène, comme ce qu'on conseille dans la grippe normale. C'est qu'il faut absolument se laver régulièrement les mains. Et lorsqu'on est à côté d'une personne qui tousse ou une personne qui éternue, c'est de se protéger et que les personnes qui ont des symptômes de rhume et autres puissent aussi se protéger des autres, c'est-à-dire lorsque ces personnes touchent ou se mouchent et puis doivent se laver les mains. L'autre aspect, c'est éviter autant que possible ces derniers temps d'être en contact avec des animaux vivants. Je veux dire dans les gens de poulailler ou autres parce que c'est un virus qui est passé d'un animal à l'homme et pourrait peut-être repartir chez l'animal et revenir encore beaucoup plus renforcé. Et puis l'autre conseil, c'est que si on a des symptômes et qu'on a une histoire de voyage des épicentres, c'est-à-dire des pays qui ont rapporté des cas, il faut absolument se référer à une structure de santé parce que c'est aller très vite dans les structures de santé pourrait augmenter les chances de survie avec des traitements symptomatiques et puis l'assistance respiratoire au cas où il y aurait des complications et cela permet aussi d'être éloigné de la famille et afin d'éviter des contaminations secondaires.
Y a-t-il des cas déjà identifiés au niveau de l'Afrique? Est-ce que des pays africains sont suffisamment préparés pour y faire face?
C'est un nouveau virus, donc je veux dire tout le monde se prépare, mais il y a bien sûr des pays beaucoup mieux nantis, ceux qui ont des services de santé beaucoup plus solides comme dans l'Occident. Mais en Afrique, beaucoup de pays font déjà face à plusieurs maladies et donc il y a une certaine fragilité du système de santé par rapport à ce nouveau virus. Et nous, OMS, notre rôle c'est justement de les accompagner. Il y a des directives qui ont été adressées aux différents ministres de la santé dans notre région pour mettre en place des mécanismes de détection. C'est vraiment la clé. Il faut très vite détecter pour qu'on se limite à un minimum de cas. Parce que si la maladie venait à se propager dans les communautés, le nombre de cas importants serait difficile à gérer. Et deuxièmement, c'est travailler avec les partenaires, ONG et autres, à préparer des structures de prise en charge au cas où on a une contamination de masse. Et il faut absolument aussi continuer à éduquer, communiquer pour qu'il n'y ait pas de panique et que les personnes qui sont exposées venant des zones contaminées puissent en toute confiance se signaler au service de santé et éviter de contaminer toute leur communauté, leur famille surtout.
C'était le docteur Ndakonan Michel Yaou, responsable des opérations d'urgence pour l'OMS Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les sénateurs qui jugent actuellement le président américain Donald Trump ont eu l'occasion de poser une série de questions juridiques liées aux relations de Trump avec l'Ukraine. Catherine Gibson, correspondante de La Voix de l'Amérique au Congrès, revient sur ce procès. Le récit est de Lionel Gaïma.
Devant le Capitole, des manifestants réclament plus d'informations. Certains Américains veulent que des nouvelles preuves soient admises dans ce procès historique et de même que de nouveaux témoignages, dont celui de John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale. Quelques rares sénateurs républicains sont favorables à cette démarche. Mitt Romney, sénateur républicain.
John Bolton, par exemple, peut nous dire précisément quand la décision a été prise sur l'aide à l'Ukraine et quelle était l'idée du président à ce moment-là. Ce sont des questions sur lesquelles nous n'avons vu aucune preuve à ce stade et j'aimerais obtenir des réponses.
Mais on ne sait toujours pas s'il y aura assez de soutien républicain en faveur des témoins pendant le vote qui aura probablement lieu ce vendredi. Susan Collins, sénatrice républicaine.
Je n'ai vraiment aucune idée sur comment les votes vont se dérouler.
Les démocrates estiment quant à eux que l'administration des témoins garantira un procès équitable. Tim Kaine, sénateur démocrate.
Avant un vote sur la condamnation ou l'acquittement, il va y avoir un vote pour savoir s'il s'agit d'un procès ou d'une parodie de justice.
La phase des questions s'est transformée en débat sur les témoins. Le juge John Roberts, président de la Cour suprême, lisant la question d'un sénateur.
Y a-t-il moyen pour le Sénat de rendre un verdict dans cette affaire sans entendre le témoignage de Bolton, Mulvaney et d'autres témoins oculaires ou sans voir les preuves pertinentes?
La réponse à cette courte question est non. Il n'y a aucun moyen d'avoir un procès équitable sans témoins.
Dans tous les cas, chaque partie a eu l'occasion d'affiner ses arguments. Alan Dershowitz, avocat à la défense de Trump.
Si un président fait quelque chose qui, selon lui, l'aiderait à se faire élire dans l'intérêt public, cela ne peut pas être une sorte de contrepartie aboutissant à la destitution.
L'accusation n'est pas de cet avis. Adam Schiff, représentant démocrate.
Si vous regardez la conduite de ce président et ses paroles, ce que vous voyez, c'est un président qui s'identifie à l'État.
Les sénateurs ont 8 heures de plus pour les questions ce jeudi. Celles-ci seront suivies par la très importante décision sur les témoins d'ici la fin de la semaine.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Michel Joseph. À la présentation, Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Vous pouvez également consulter nos articles, vidéos et interviews donc sur notre site internet. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne soirée. Restez avec nous sur VOA Afrique.